Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure grave et on se retrouve cette semaine pour parler potion magique, gaulois et indéfectible amitié avec celle qui ne nous lâchera jamais, celle pour qui la fidélité est inscrite dans les gènes, dans le sang, sur la peau, Cécile. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Et pour nous accompagner, celui dont la présence ne faillit jamais, tiré de son île de beauté pour nous offrir la sienne, Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Gaspard, bonsoir Cécile.
On se retrouve cette semaine pour évoquer les aventures du Gaulois le plus célèbre, de son acolyte qui ne l'abandonne jamais, ne l'abandonnera jamais, lui, et de leur village solidaire et toujours soudé. Et dans l'importante liste des missions et voyages que le petit moustachu a connus, nous avons choisi avec Raph... Nous avons choisi d'évoquer ensemble, tous les trois, tous les trois, le 20e tome des petites aventures, Astérix en Corse, publié en 1973. Et si on a choisi également Astérix en Corse, c'est pas pour n'importe quelle raison. Pourquoi Pierre ? Pourquoi on a choisi Astérix en Corse ?
Eh bien, on a choisi Astérix en Corse parce que la Corse est un endroit qui regorge de clichés et qui nous fait toujours plaisir. On pourra toujours bien en rigoler. Et puis, Gaspard, il faut avouer, je crois que vous avez une petite passion pour ces plages de sable fin. Et...
En effet, je dois avouer que j'ai une vraie passion pour Pascal Olmeta surtout.
Et moi, c'est le moment où je commence à pas avoir les références parce que je ne suis jamais allé en Corse et je ne regarde pas le foot.
Et tu n'as pas lu Astérix non plus. Et d'ailleurs, Cécile ne sait pas lire.
Mais d'ailleurs, j'ai demandé de Raph et toi, qui est Obélix ?
Pardon ?
Et qui est Astérix ?
Je préfère pas en parler. Si c'est...
De qui parles-tu ?
On parle surtout de René Goscinny. René Goscinny, il est né à Paris le 14 août 1926, écrivain, humoriste et scénariste de bande dessinée française. Il débute dans les années 50 au bureau français de World Press, où il fait la rencontre alors d'Ulderzo. En 1959, les éditions Eddy Press lancent le magazine Pilote et Goscinny devient alors un des écrivains les plus productifs du magazine. Dans sa première édition, il lance d'ailleurs avec Albert Ulderzo sa plus fameuse création, Astérix. Il est connu mondialement pour les albums donc d'Astérix, de Lucky Luke, pour également les aventures du petit Nicolas et enfin plein d'autres œuvres qui ont toutes atteint le statut de culte.
Mais il n'a pas connu un peu la miskina, Goscinny, justement ?
Qu'est-ce que tu entends par la miskina ?
La misère.
Non, je crois qu'au contraire, la vraie misère, elle se passe le 5 novembre 1977, puisqu'il meurt à 51 ans seulement.
Ah, c'est beau. On a d'ailleurs des informations comme quoi il aurait été assassiné par son acolyte pour que ce dernier puisse récupérer tous les droits sur les œuvres.
C'est vrai.
Après, c'est caché comme information.
C'est vrai que si on lit tous les albums d'Astérix à l'envers, il y a un message codé. Alors. Mais qui est son acolyte si ce n'est Albert Ulderzo, né le 25 avril 27, qui travaille comme illustrateur dans les années 40, avant de rencontrer donc Goscinny dans les années 50, de créer Oompapa, leur premier personnage, puis Astérix. Enfin, avec Goscinny, ils préparent un tome par an d'Astérix. C'est quand même hallucinant. Pendant 20 ans, plus de 20 ans, ils font un tome par an. Plus de 24 tomes d'Astérix ensemble, donc, avant que Uderzo ne reprenne la main seul à la mort de Goscinny, avant de passer le relais en 2013. Bref, aujourd'hui, il y a à peu près 40 tomes d'Astérix.
40.
Des aventures du petit Gaulois, reconnu par tous comme l'un des plus grands monuments de la culture française du XXe siècle.
T'es sûr, c'est pas les menhirs ?
Et donc, Astérix en Corse, le 20e album de la série, publié dans Pilote en plusieurs morceaux avant d'être publié en album en 73, un album phare puisqu'il a quand même été publié à 1 300 000 exemplaires et qui reste aujourd'hui considéré comme un des meilleurs opus.
Opus.
Je dis le mot opus.
Tu peux venir les S à la fin de tes mots.
C'est fini, je ne les dirai plus. Et si je vous reçois ce soir, si je vous reçois seul cette fois-ci, c'est quand même pour qu'on évoque ensemble cette grande bande dessinée. Alors Pierre, toi qui es corse, je me permets de le rappeler.
Mais j'ai bien aimé, c'est vrai que ça touche à pas mal de clichés entre guillemets corse. Ça met l'accent sur notamment la flémardise que certains de nos compatriotes peuvent avoir.
Ah non, mais on a un ordre assez ordonné des choses. Le réveil, l'apéro, la sieste, l'apéro et aller au dormir. C'est plutôt organisé comme journée, non ?
Ouais, et toi, Cécile, tu en as pensé quoi de cette BD en Corse, toi qui n'as jamais mis les pieds en Corse ?
Eh ben, j'ai bien aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Et mon défi pendant toute la BD et pendant tout le podcast, ça va être de réussir à prononcer le nom.
Ah, t'as réussi l'autre jour au téléphone, tu m'as dit.
Docatarineta Bella Chichix.
Deux têtes, félicitations, incroyable.
Deux têtes avec trois feuilles devant elle. Elle a réussi et après 9 essais, bien joué Cécile.
Du coup, ça m'a fait bien rire. Et du coup, je pense qu'on pourra ajouter 20 minutes de podcast à chaque fois que je dirai le nom.
J'aimerais mettre un petit point là-dessus tout de suite.
C'est la minute nationaliste. Attends, petit jingle.
Il n'y a pas de nationaliste en Corse. Ah. Nous sommes juste des apprentis chimistes avec
solide.
Un petit désir pour... voir les choses se casser parce que nous aimons bien construire. Nous aimons construire.
Et vous aimez déconstruire.
Et on aime déconstruire parce que c'est comme des Legos. Vous, toi, Gaspard, quand tu étais petit, je me souviens quand tu jouais avec mes Legos.
C'est vrai.
Et bah,
le plus grand plaisir de mon frère était de les déconstruire. Bon, et toi, dans ta famille d'intello, Cécile, qui doit lire donc beaucoup d'Astérix, est-ce que tu peux nous résumer un peu le personnage qu'il est pour les quelques personnes, les quelques irréductibles idiots qui nous écoutent et qui n'ont jamais lu d'Astérix?
Bien, Astérix, c'est un petit moustachu.
Qui vit dans le marais avec son gros copain moustachu. Et ils ont un petit chien. Ils ont un petit chien et puis après ils boivent une potion et ils sont tout forts après.
Bah on peut noter qu'il y a beaucoup de petits moustacheux qui ont marqué l'histoire quand même.
Oh bah bravo.
Mais il était pas si petit hein.
Ouais, question de point de vue, hein. Nicolas Sarkozy pas très très grand non plus.
Bah il a pas de moustache.
Mais il a pas marqué l'histoire en plus.
Ça se voit pas.
Tout
complètement raté. Allez, on reprend l'émission.
Non mais du coup Astérix c'est un Gaulois et il est tout le temps avec son pote Obélix et ils habitent dans un village. Il passe leur vie à Castagnier des Romains et en Bretagne. Et
En Armorique.
Et grâce à la potion magique de Panoramix, le druide.
Est-ce que tu peux peut-être nous raconter rapidement, nous pitcher Astérix en Corse?
Astérix en Corse. Eh bien, Astérix en Corse, c'est assez facile. C'est l'histoire d'un jeune Corse qui a un nom assez imprononçable. Donc, je te laisse.
Ocatarineta Bella Chic-Chic.
Voilà, comme elle a dit. Mm-hmm. Qui se fait kidnapper par les Romains.
Ah oui.
Mais qui, cool, au final, se fait sauver par Astérix et son cher acolyte Obélix, qui le ramène sur son île de beauté afin de reprendre le contrôle du pontife romain.
Du pontife.
C'est pas le pontife.
Le fondé de pouvoir. C'est un fondé de pouvoir, exactement.
Le mot prêteur.
C'est le prêteur romain.
Comment il s'appelle? Gaspacho andalou.
Gaspacho andalou.
Oui, c'est ça. Ouais. J'ai une bonne mémoire des noms.
C'est assez impressionnant. Même.
Personnellement, j'avoue que c'est un de mes Astérix préférés. Astérix en Corse. Sans déconner, je trouve que c'est un des plus drôles parce que c'est un des plus rattachés à l'actualité. Alors Astérix a toujours fait le délire de faire des blagues qui étaient vraiment anachronique, à jouer sur la ressemblance de tel personnage avec des mecs de l'époque. Bon, moi qui grandis dans les années 70 en plus, je m'y repère vachement. Et toi en plus qui a grandi à l'époque des Gaulois, bah tu dois être encore plus dans la référence. Non mais tout ça pour dire que là il y a un nombre de vannes qui sont... De toute façon Astérix c'est toujours ça, je pense qu'on va les relire encore pendant 30 ans. À chaque fois on découvre des vannes qu'on n'avait pas imaginé. Et je me souviens avoir écouté une interview de Alain Chabat qui racontait comment il avait adapté Astérix Mission Cléopâtre, et il disait mais c'est hallucinant, même sur le plateau on redécouvrait, on avait toujours la BD devant nous et on découvrait des vannes mais qui étaient cachées.
C'est comme dans le Astérix Mission Cléopâtre.
C'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire.
Mais non, mais dans le film.
Ah.
Non mais je veux dire que le film,
elle a fait la sieste, elle a pas écouté, c'est bon, faut pas lui en vouloir.
Mais non mais j'ai dû le voir au moins 20 fois.
Bonsoir à tous.
Découvre encore des blagues quoi.
Ah bah oui, c'est ce qu'on appelle une bonne adaptation qui a su garder le sel de cette bande dessinée. Non mais du coup si on a chacun donné notre avis là-dessus, je pense qu'on peut bientôt attaquer la BD. Nous sommes en 50 avant Jésus. Ah bah non, Astérix, il ouvre pas de cette manière cette fois-ci. Vous y avez cru, hein. Elle était pas mal, mon intro. Parce qu'en fait, je les écris les épisodes avant qu'on les enregistre. Non, alors,
je me disais aussi.
Première particularité, quand même, cet épisode de Astérix s'ouvre de manière très originale. Pourquoi, Pierre?
Parce qu'ils ont rédigé une préface qui est relativement particulière, puisqu'elle cherche à adoucir un petit peu la peine qu'ils vont faire aux Corses, qui sert à apaiser, nous dirons, les esprits échauffés des Corses, afin que, parce qu'ils tenaient à leur maison.
C'est très drôle parce qu'ils commencent en disant, écoutez, on a écrit une BD sur les Corses, mais il faut pas dire que les Corses, ça reste des personnes merveilleuses, ça reste des personnes accueillantes.
Le plus drôle, c'est comme les cochons sauvages.
C'est ça. Et ça se termine par, pourquoi on écrit ce texte?
Ils sont susceptibles.
Mais non, mais ce n'est pas vrai. Les Corses ne sont pas susceptibles. Je tiens à souligner.
Les Corses ont très bonne mémoire, c'est tout.
Exactement. Nous avons très bonne mémoire.
Et d'ailleurs, en parlant de souvenirs, le village gaulois s'apprête à célébrer l'anniversaire de la victoire de Gergovie. Tout le village est en ébullition. Dans quelques heures, ils organisent une énorme teuf. Ils ont invité beaucoup d'invités. Le chef, Abra Coursix, invite tout le village à être des hôtes d'exception. Débarque alors toute une tripotée de cousins et d'amis. Alors là, c'est quand même merveilleux parce qu'il y a une succession de noms
qu'on a
dans
déjà
un épisode.
Vu.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme nom?
Bah, moi, je me souvenais juste de Soupe à l'oignon et Crouton.
Soupe à l'oignon. Ah, bah, moi, j'ai lu Soupe à l'oignon et Crouton. Hein.
Soupe à l'oignon et Crouton.
Mais tout le monde dit Soupe à l'oignon et Crouton.
Tu. Dans ta famille. Dans ta famille.
Dans ma famille d'Antelo, mais l'accent.
Mais c'est vrai qu'ils ont mis quand même un sacré jeu au niveau des accents.
dans la BD. Je sais pas si c'est propre à tous les Astérix, parce que je dois avouer que j'en ai pas lu depuis quelque temps, à part celui-là.
Bah du coup. Mais non, mais ça c'est pas l'accent. Attends, c'était quoi? C'était en Hispanie quand tu dis c'est pas Unión y Crután? Tu dis qu'il y est pas. Alors vas-y, fais-le.
Bah l'accent corse, il est facile.
Et d'ailleurs, il y a qui d'autre comme invité? Il y a Petit Suisse. Petit Suisse, il me fait beaucoup
fromage Helvète.
Il y a Joli Thorax.
Joli Thorax.
Et comme il faut souligner la capacité de Goscinny à écrire un nombre de prénoms et de noms, je rigolo. Qui
rigolo.
Renvoie, qui... Ça te fait rire quand je parle comme ça. Tranquillement, je parle de mon émission. On parle de la Corse, on parle d'Astérix, on parle de René.
Oh, tu parles un peu vite. Oh, calme-toi, mon frère.
Eh, c'est elle qui m'a énervé.
Eh oui, excuse-moi. C'est pas grave.
Excuse-moi. Et du coup, Abracourcis demande alors à Astérix et Obélix d'aller faire des repérages. Parce qu'en effet, si on fait la fête, c'est quand même l'occasion d'aller foutre une bonne branlée aux Romains.
Bah oui, c'est ça, faire la fête.
Donc la tradition veut que chaque année, pour célébrer cette victoire, les Gaulois vont se coltiner quelques Romains dans les camps voisins. Mais chaque année, les Romains, qu'est-ce qu'ils font les Romains chaque année?
Eh bah, ils fuient.
Ils désertent. Ils sont effrayés à l'idée de se faire ramocher la gueule.
En même temps, c'est quand même pas très équitable. Hein.
C'est quand même très drôle parce que du coup, bah, on voit Astérix et Obélix qui vont faire un tour des camps voisins. Donc les fameux Laudanum, Aquarium et Petit Bonhomme, les camps sont vides quoi.
D'abord,
bravo. Non, mais... Très belle idée. Ça vaut le coup de faire une émission culturelle. Hein.
Donc, encore une histoire de petit moustachu.
Oui, c'est ça. Encore une histoire de petit moustachu.
Bien, c'est souvent. Hein.
Ça correspond parfaitement. Non, mais du coup, oui, là, ils ont déserté, ils ont peur de s'en prendre une. Astérix et Obélix vont voir dans le dernier camp Babaorum. Sauf que qu'est-ce qui se passe à Babaorum?
Babaorum, en fait, est le lieu dans lequel le prisonnier corse est détenu. Et tous les soldats qui gardaient la garnison avaient extrêmement peur des Gaulois, qui savaient que les Gaulois tous les ans venaient pour leur mettre une rouste. Et donc, ils cherchaient à partir, faire des manœuvres, entre guillemets.
C'est ça.
Dans
ils vont les manœuvrer loin dans la forêt.
Voilà, loin dans la forêt. On se demande ce qu'ils font, d'ailleurs.
Hein. Surtout, j'adore parce que d'un coup, t'as un gars comme quoi, tu vois, un des soldats, tu sais, qui parle hyper mal à son centurion en mode genre, bon, bah, écoutez, nous, on va partir devant, vous nous rejoignez parce qu'on a peur de s'en prendre une, là, comme.
Eh, je comprends.
Donc, tout le village se met en route pour aller démonter du Romain. Et donc, évidemment, au camp, c'est un peu la panique. Et donc, le centurion Gaspacho Andalus, parce que c'était pas le prêteur, oui, on s'est trompé, préfère laisser s'échapper le prisonnier plutôt que d'affronter les Gaulois. Donc il va voir le prisonnier corse et lui dit bah non, barre-toi.
Eh oui, mais malheureusement.
Mais il est en train de faire la sieste.
Eh ben c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. C'est limite blasphématoire de réveiller un corse pendant sa sieste. Oui. La sieste qui, je le rappelle, dure de 11h à 19h.
Ah, c'est ça. Mais donc c'est là où il sort quand même le non, je dois faire ma sieste maintenant, sinon j'aurai pas le temps de la faire avant d'aller me coucher ce soir. Gaspacho Andalus, il est en mode oui, non, on s'en fout, barre-toi. Trop tard, les Gaulois sont là.
Avec tous leurs potos aussi.
Ah, mais avec,
et ils ont tous pris de la potion magique.
Il y a Sopalognon, il y a Croutan.
Non, c'est la même personne.
Thorax. Donc c'est un véritable carnage. Sauf que, bah évidemment, Astérix et Obélix découvrent
Ocatarineta Bellaticix
qui est prisonnier. Et du coup, il se retourne vers Gaspacho Andalus pour lui dire « Ah bah d'accord, vous avez un prisonnier. » Et le mec, il s'est fait éclater la gueule, il a plus de dents. Il répond « Oui, mais vous pouvez plus rien nous faire parce qu'on est déjà massacrés. On vous a bien eu. Hein. »
Ah là là.
Donc, Ocatarina Bella Chix.
Tu progresses, hein.
Ouais, non, mais j'y arrive. Ça n'a rien à voir avec la feuille que j'ai devant les yeux. Hein. Rien à voir.
Non, bien sûr, non.
Prisonnier politique qui s'affirme comme le plus grand cauchemar des Romains.
Obélix aussi est le plus grand cauchemar des Romains.
Et donc, il se regarde.
Du coup, il s'énerve un peu parce qu'ils se sentent blessés dans leur ego. Mais du coup, Ocatarineta, il est ému. Il adore Obélix qui est aussi susceptible que lui.
Il lui dit, tu es susceptible, je t'aime bien, toi.
Tu me plais.
Tu me plais.
Mais ça, je trouve que ça tourne un peu bizarrement, cette BD, là. Hein, parce que je pense qu'il y a marqué moins de 7 dessus, mais avec ce genre de phrase...
Ça fait beaucoup de mains sur l'épaule.
En plus, s'il part de faire des manœuvres dans la forêt...
Et donc, il ramène Ocatarineta Bella Chix pour faire un banquet. Ils font un énorme banquet, c'est une grande habitude chez Astérix.
Ils mangent des sangliers.
Ocatarina Bidule, là, il raconte un peu son histoire.
Ah oui, il raconte sa vie.
Et il explique qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il est là, Ocatarina?
Eh bien, il est là parce qu'en fait, il a passé beaucoup de temps à se battre contre la garnison romaine, à leur voler les biens qu'eux-mêmes volaient à la Corse, afin de les redistribuer. C'est un peu le Robin...
Le Robin des Bois.
Le Robin des Bois, au Corse.
Alors, j'allais dire le Robin Sans Creuset. Tu l'as dit, il est sur une île, ça raccord. Voilà.
J'ai failli le mal prendre.
Non, mais
il faut savoir, oui, que les Romains, ils ont un peu la main mise sur la Corse, même s'ils s'en occupent pas vraiment.
Exactement. Exactement.
Ils voient que des boulets là-bas.
Il y a une petite vanne et on le voit sur la map qui est dessinée au début, c'est que les Corses ils sont que sur la plage. Quoi. Ils vont pas à l'intérieur.
C'est trop drôle.
Et surtout, acte horriblement lâche. Comment il s'est fait kidnapper Katharina Bidule
pendant sa sieste.
Et il dit que ça, c'est la chose la plus lâche du monde. On est venu le pêcher pendant sa sieste. Et donc Katharina Bidule se dit bon, bah je vais inviter mes deux copains moustachus avec leur petit chien à venir en Corse pour découvrir ce que les Romains font à mon île et les méthodes ainsi que nous on utilise pour les parer. Tu sens qu'à un moment c'est un peu l'excuse pour dire bon bah maintenant barrez-vous en Corse.
Ah oui là ils ont aucune raison d'y aller.
Chaque fois ça commence toujours comme ça Astérix, c'est genre il y a un type d'un pays étranger qui se retrouve au village, tu sais pas pourquoi.
Surtout que c'est vraiment au fin fond du trou du cul de la France quoi.
Corse. Je ne te permets pas.
Mais non, la Bretagne. Voyons.
Ah oui, l'Armorique.
Ça bien sûr. Ti nascurderà camminando in terra.
Nos amis gaulois à Marseille. Notre ami Corse, cette fois-ci, retrouve lui son ami Café Olix dans son café. Beaucoup de répétitions. Café Olix et Océano Bidule se retrouvent.
Eh bien, ils sont extrêmement fous de joie de se retrouver, mais c'est à la méthode Corse.
Je suis fou de joie de te revoir.
Eh oui, mon moi ami. Aussi, mon ami.
Aussi, mon cher ami. Très heureux de te voir.
C'est un Corse.
Ah merde, ça marche pas du coup.
Et non, et du coup, Café Olix va dépanner son ami au Katharina Bidule en lui arrangeant une traversée de Marseille pour la Corse. Et du coup, avec qui il va arranger une traversée? C'est avec nos amis vikings. Les vikings, c'est les personnages qu'on voit souvent dans Astérix, non?
Ah oui, oui, oui.
Dès que je les vois apparaître, automatiquement, je rigole parce que je sais ce qui va se passer. Et ça me fait
les vikings
pas servi à tomber sur les Gaulois et à se faire bolos.
Sauf que du coup, les vikings, ils acceptent de faire passer un Corse et ses deux amis pour faire la traversée, mais ils savent pas que les deux amis, c'est les Gaulois, quoi.
Mais il faut avouer aussi qu'ils ont quand même une certaine idée derrière la tête.
Bah, ils espèrent pendant la nuit en fait détrousser leurs invités.
Après surtout qu'ils ont bien la poisse quand même de tomber toujours sur les Gaulois.
Surtout qu'à chaque fois que tu sais, genre il y a personne, ils se font là, on est des méchants.
Mais t'as l'impression que c'est le seul bateau de, oui, enfin, c'est le seul équipage de toute la France.
Mais
quoi.
De toute l'Europe quoi.
C'est vrai parce qu'ils se baladent quand même pas mal. Hein.
En pleine nuit alors que le Corse et les Gaulois dorment, ils arrivent dans la chambre et là nous on voit depuis l'extérieur de la chambre. Oh mon dieu, c'est les Gogos, les Gogos, les Gaulois. Donc qu'est-ce qu'ils préfèrent faire plutôt que de se faire péter la gueule? C'est d'abandonner leur navire.
Comme d'hab.
Avant même que les autres se réveillent.
Cette fois-ci, ils n'ont pas donné de coup de hache.
Non, c'est vrai, quand même. Ils ont préféré
abandonner que le couler.
Et donc ils arrivent sur l'île et ivres de joie, ils décident de sauter à l'eau. Et alors là, au Katharina, ils leur expliquent que bah, en fait, la Corse, certes, il y a des camps romains. Mais en fait, on en voit en Corse que les plus mauvais Romains, c'est un peu leur punition.
C'est la poubelle.
C'est un petit peu comme les gendarmes aujourd'hui.
On découvre alors deux soldats romains qui voient
Corse
et Gaulois arriver.
Est-ce qu'on prévient ou pas ?
Est-ce qu'on va prévenir le centurion ? Alors, il y en a un qui a l'air très très pressé de le faire, c'est Science Infus.
C'est un petit suceur.
Oh.
Oh, je ne te permets pas.
Et l'autre qui a l'air d'être beaucoup moins pressé quand même. Et donc Science Infus décide lui de prévenir tout son camp de Romains. On débarque dans le camp de Romains Corse et bon, ça a pas l'air d'être le camp le plus actif en fait.
Non, mais ils prennent leur temps. Ils se sont un petit peu adaptés à leur population.
Ils dorment tous.
Ils s'adaptent.
C'est pas mal. C'est l'heure de la sieste en même temps.
Alors, exactement. Ils sont tous en train de dormir. Ils sont vraiment pas pressés. Au Katharina Bidule, on retrouve enfin Astérix et Obélix. Ils sont en train de marcher dans le maquis. Ils montent. Ils font oh, c'est joli le maquis ici. Et puis, ils découvrent le village de Katharina. Et en chemin pour le village, ils croisent Pathologix, le druide du village corse. Mmh, et il a une drôle de manière de récolter le gui, parce que qu'est-ce qu'il fait?
Bah, il l'attend.
Il attend qu'il tombe.
Il attend qu'il tombe.
En fait, c'est quand même le
un
Newton
peu comme
corse.
Toi, t'attends une meuf, non?
Exactement.
Tu m'as toujours dit que...
Oh. Merci.
Et toi, comme t'attends un boulot, non? Oh.
si vous êtes intéressé,
moi, j'attends des amis.
Mais en même temps, avec tes blagues de merde, hein, faut pas s'attendre à ce que ça tombe dessus.
Je savais que j'aurais pas dû monter cette émission. Ils arrivent au village, et alors là, on fait la rencontre de quatre petits vieux qui sont à l'entrée du village, et ces quatre petits vieux, en fait, vont être un peu les Thierry Roland et...
Les Nelson
et Jean-Michel Larquet de la bande dessinée, puisqu'ils vont en fait commenter tout ce qui se passe à chaque fois.
Mais c'est d'ailleurs assez représentatif de ce qui se passe en Corse. Mmh. Les petits vieux assis sur le banc qui discutent de ce qu'il se passe autour d'eux.
C'est les potins.
Ça fait une belle référence aussi à l'enquête Corse, encore une fois.
Okatarina Bella Chick-Chix est accueilli alors en héros. Il est le chef ici, et on lui explique que d'ailleurs son
Ils
absence...
Ils étaient prêts de le remplacer en faisant une nouvelle élection.
Et comment on fait les élections en Corse?
J'ai pas tout compris.
C'est un peu comme en Russie.
Là, ils expliquent que...
Non, ils remplissent les urnes.
Non, les urnes sont déjà remplies, en fait.
Les urnes sont déjà pleines, oui. Mais ils les jettent dans l'océan.
Oui,
et après, et en fait, ils définissent
après,
le chef. Voilà, en fonction de celui qui va chercher son urne en premier en se battant contre l'autre, en gros. Non
ah non, je crois qu'il...
Ah, c'est juste qu'ils se pètent la gueule.
Elle est pleine et après, ils en ont plus rien à foutre de l'urne. Okay. On comprend alors que Okatarina Bella Chick-Chix est fâchée avec le village de Figatelix. Qu'il accuse de l'avoir vendu aux Romains.
Pendant la sieste.
Oui. Et en fait, là, on comprend qu'en fait, ça remonte à même encore plus loin. Parce qu'en fait, on n'est pas trop sûr de l'embrouille entre le village Figatelix et Okatarina. Alors.
Qui est une embrouille ancestrale.
On ne sait pas si c'est une histoire de. Il y en a un qui a parlé à sa sœur. Ou s'il y en a un qui n'a pas payé l'âne que l'autre lui a vendu.
Ah. C'est vrai que c'est quand même des sujets qui
vous
sont
me direz,
assez sensibles.
On n'est pas loin de la même chose. On récupère alors le Viking qui est amené au prêteur en Corse. Et on lui demande de raconter un peu toutes ses mésaventures. Il commence à expliquer que le danger pour la navigation que représentent les Gaulois. Et il dit, non, voilà, ils sont là, ils sont venus pour vous péter la gueule. Et le prêteur comprend que Okatarina Bida
est revenu
en Corse.
Et donc, il commence un petit peu à paniquer, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il cache dans ses entrepôts, le prêteur?
Bah, tous les impôts.
Tous les impôts, toute la thune.
Que Katarina, il veut.
Que Katarina, il veut.
Katarina.
Katarina.
Katarina est devenue une grande russe de 2 mètres.
Influenceuse.
Rade-moi. Influenceuse Instagram. Et si on s'infuse, c'est alors missionné pour aller chercher Okatarina Bellabilic dans son village et le ramener au prêteur. Le prêteur, en attendant, donc, veut mettre son butin dans un lieu sûr. Il ne veut pas être envoyé en Gaule. Parce qu'il a peur que s'il est envoyé en Gaule, il va scoltiner des petits Gaulois qui, paraît-il, sont assez vénères. Et ce qu'il sait pas, hélas.
Surtout, ça coule douce encore.
C'est que les Gaulois.
Bah, ils sont déjà là.
Ils anticipent, hein.
Ah, voilà. Rapidement, les Romains sont alors repérés lorsqu'ils arrivent au village. Et le village corse de Katarina Bidule commence à se préparer. Ils finissent de manger avant tout, quand même. Parce que bon, faut pas non plus déconner. Et Obélix remercie Chipolata, la sœur de Carféris, qui est le copain de Katarina. Il la remercie et il lui dit oui, c'était très bon, mais alors là...
C'est pas une bonne idée.
C'est pas une bonne idée de parler, parler aux sœurs, non?
Non, c'est pas du tout une bonne idée. Parce que le problème, en fait, avec les sœurs, c'est que ça a tendance à légèrement brouiller les Corses. Et puis ensuite, après, ils te demandent si ta sœur, si la sœur ne leur plaît pas, nous plaît pas.
On comprend quand même que, bon, le statut des femmes... En Corse, 150 avant Jésus-Christ, c'est pas non plus le...
Non.
C'est pas le top.
Bah attends, bah, là, si. C'est top harcèlement quand même. On évite qu'elle soit harcelée.
On évite qu'elle soit harcelée. Mais il y a quand même un moment où au début, juste, elle dit oui. Et l'autre,
elle est bavarde.
Ma femme est bavarde. Science Infuse débarque alors dans le village, toque à la porte, tombe sur Chipolata. Donc à nouveau, la pauvre, elle arrête pas de parler.
Elle est tellement présente dans cette histoire.
Ça.
Tellement
c'est
importante.
C'est un peu le point central. Ouais. D'ailleurs, Astérix chez Chipolata, ça devait s'appeler.
Ça fait un peu bizarre ça aussi comme phrase.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, avec
un petit moustachu.
Il toque à la porte, il tombe sur Chipolata, puis Carféric arrive en disant attends, laisse-moi gérer ça. Et il dit pourquoi t'as parlé à ma sœur? Il dit non mais elle m'intéresse pas votre sœur.
Comment ça elle t'intéresse pas?
Non mais genre elle te plaît pas ma sœur.
Bah, si, non, si, enfin, elle me plaît.
Elle te plaît ou elle te plaît pas ma sœur?
Elle me plaît.
Ah, ça aussi, ça fait partie des phrases légèrement compliquées à dire encore.
Elle te plaît, ma sœur?
Ça peut potentiellement énerver. Je me souviens, moi, d'une petite anecdote assez marrante.
On t'a dit que ton frère plaisait, c'est ça?
On m'a dit que mon frère me plaisait, ouais, effectivement. Et non, j'étais avec des Corses dans une petite boîte de nuit.
Corse.
Et je vois cette magnifique Chipolata qui apparaît au fin fond de cette boîte de nuit. Et donc j'avance en claquant des doigts comme ça, avec ma chemise un peu ouverte. Et à peine arrivée, je lui tends la main comme ça et elle m'effleure. Et puis après, si je me souviens bien, je crois que j'ai reçu un coup et puis je me suis réveillé, j'étais sur le parking.
Alors maintenant, on va faire la vraie version. Pierre Turbo Bourré qui arrive sur la plus grande. Hé ! Madame !
Mademoiselle !
Non, il y a mon frère, il va te faire mal.
Hé, la sœur de machin !
Ton frère ! Tu vas le baiser !
Hein ? Eh, moi je suis corse, hein !
C'est rien de mon bras, rien !
Les Romains donc déguerpissent rapidement et tombent sur les Gaulois dans le maquis. Ils se perdent rapidement aussi dans le maquis. Astérix, Obélix et Okatarina Bidule vont donc se cacher en attendant dans une grotte à côté du maquis.
Je dirais qu'ils ne vont pas se cacher, ils vont discuter, comme un petit peu la table ronde du roi Arthur.
C'est vrai.
Nous avons des tables dans le maquis pour aller discuter tranquillement.
Comme un conseil d'administration.
Des cochons sauvages.
Les pinsoutes, comme on les appelle, viennent nous déranger.
Et bah, c'est très intéressant que tu dis ça, puisqu'en fait, débarquent alors les autres chefs corses, qui ont tous l'air de faire la gueule, et qui disent qu'ils sont très étonnés de voir des types du continent sur leur île.
Sur leur île, et qui plus est, dans la grotte cachée.
Et donc, on retourne alors au prêteur Bidule, qui commence à réquisitionner Salamix. Salamix, qui est un ancien Corse, qui s'est pris un sacré coup sur la tête et qui en fait est devenu romain un peu teubé quoi.
Mais,
j'ai pas trouvé ça.
Tu peux le dire en fait.
Comment?
Romain tout court.
Romain tout court. Oh le petit scud, Elle est romain. Et il le réquisitionne pour une mission alors, charger son navire du butin qu'il garde dans son entrepôt avant que les Corses attaquent.
Sans le dire à la garnison,
du coup ils ont.
Pour qu'elle continue de garder l'entrepôt pour faire genre il y a des trucs dedans.
Au petit matin. Les troupes corses alors s'apprêtent à attaquer. On découvre que tous les clans corses se sont réunis pour aller enfin piller les entrepôts et récupérer leur dû. Vraiment, la cohésion et l'idée d'une seule et même île liée par les mêmes idées, voilà. C'est un truc très corse.
Exactement.
Il faut le dire.
Exactement.
L'unité est un terme corse d'ailleurs.
Ouais, exactement.
Et alors, on découvre que l'idiot Salamix, donc le Corse devenu romain par la force des choses, avoue à ses camarades que les entrepôts sont vides.
Avoue, j'aime bien comment il avoue, tu sais.
Ils sont là, t'as l'air fatigué, il dit bah oui, j'ai passé la nuit à vider les entrepôts.
Ah oui, au fait.
Et en fait, il commence à comprendre que le prêteur est en train de vider les entrepôts, qu'il s'apprête à quitter l'île, et donc...
Avec tous les sous, en laissant...
Les Romains pensent faire péter la gueule, quoi.
Tout seul avec les méchants Gaulois.
Ça fait une petite boucle, encore une fois. Hein. On remarque que le chef de la garnison romaine laisse un petit peu ses sous-fifres, entre guillemets.
Mais on remarque aussi qu'il est souvent de castagne entre les Romains.
Mais ce qui est curieux, c'est qu'en fait, on découvre quand même que non. En général, un peu partout où ils vont dans le pays, les Romains se font péter la gueule par les Gaulois. Comment ça se fait que cet empire tienne? Il y a forcément un moment où tu sais, ce serait trop gros qu'Astérix il débarque dans une région où c'est vraiment les Romains qui démontent les mecs sur place, que ça se passe hyper
mal. C'est que les Romains expats, hein. C'est pas les Romains de Rome.
Ah.
Ils ont du mal, les Romains.
Oui, mais comment ils tiennent l'Empire si c'est un peu des guignols, tu vois? C'est-à-dire que vraiment, à Paris, ils doivent pas moufter les Gaulois. Hein. Avant l'assaut, Figatélix débarque et s'embrouille avec Ocatarina Bidule pour savoir qui est le chef. Parce que c'est pas en mode genre, on va peut-être attaquer tous ensemble, mais avant de parler d'unité, on va quand même parler de qui c'est qui décide.
Bah, oui.
Qu'est-ce que quelqu'un a une urne pleine sur soi?
Bah oui, tous les jours, dans ma poche.
Astérix et Obélix, ils ont pas que ça à foutre d'attendre qu'on parle. Parce
ils veulent castagner.
C'est un peu des malades mentaux, ils ont envie de péter la gueule aux Romains. Donc, ils passent à l'attaque et refusant de se faire donner des leçons par deux types du continent, les Corses lancent l'assaut également.
Ça leur prend un peu de temps quand même, hein. Faut pas oublier la sieste.
Mais là, faut savoir qu'on voit la baston en off, nous.
Mais c'est ça, en fait, parce que nous, on se concentre sur les petits vieux.
C'est les petits vieux qui regardent le film, qui nous transcrivent.
Mais c'est relativement bien fait, enfin, après. Hein,
Tu es adapté, ça t'évite de dépenser de l'argent en cascade, chorégraphie et tout le bordel. Hein.
Tu crois qu'en fait, il était juste paresseux, il avait pas envie de décrire une bataille.
C'est ça.
On va mettre quatre petits vieux là, sur le banc.
C'est possible, ça me fait d'ailleurs beaucoup penser. C'est très Astérix ça, de mettre les batailles en off. Et nous raconter un petit peu.
Tu veux dire
ce
qui est très Astérix, c'est un tome d'Astérix?
Ouais, exactement. T'as vu?
Et on découvre que Salamix, donc le Corse devenu romain, se reprend un coup par Astérix et par la force des choses, redevient un Corse.
Mais se trouve un petit peu perdu au sein de cette bataille.
C'est ça, et eux, qu'est-ce que je fous là?
Pour qui je suis déjà?
Et alors que le prêteur s'apprête à s'enfuir sur le bateau des Vikings, Astérix et Obélix déboulent, et donc les Vikings qui pensaient enfin être débarrassés des deux Gaulois, à nouveau, boum.
En même temps, s'ils restent dans les parages, ils sont un peu cons aussi.
C'est ça.
Mais encore une fois,
comme c'est les seuls.
Est-ce que tu veux dire qu'il y a un petit moment où en fait ils aiment ça? Ils le cherchent.
Ah, ils sont un peu mazo.
Je pense.
Ouh, les Gaulois!
C'est nous, oups alors!
Il y a mon grand mât qui dépasse.
Oh là là.
Très vite, je suis un moustache de ce que ça sent.
Bah oui. Et les Corses décident donc de laisser la vie sauve aux prêteurs, refusent de reconnaître César comme leur empereur. Et la petite vanne.
Discute.
Le seul empereur que les Corses accepteront sera un Corse lui-même.
C'est vrai. Et alors, je pensais pas qu'Adolphe était corse, mais je suis content d'avoir...
Excusez-moi. En même temps, ils ont tous les deux les mêmes objectifs. Hein. Encore une fois, on retourne sur la Russie avec leurs urnes pleines.
Non, mais ça...
Même si,
Et alors que Figatélix et Ocatarina Bidule s'apprêtent à régler leur vieille querelle, Astérix déboule pour leur dire de devenir amis maintenant, parce que bon, il reste 3 pages dans la BD, donc on n'a pas le temps de faire de nouvelles intrigues, qu'ils ont vaincu l'envahisseur et que voilà, tout va bien, on peut reprendre.
En plus, ils se souviennent même pas pourquoi ils sont embrouillés au départ.
Oui, ça arrive même. Non, au début, il commence à dire, mais non, c'est pas moi qui t'ai vendu.
Oui, qui t'ai vendu l'âne.
Bon, d'accord. Et c'est pas moi qui ai dragué ta sœur. Bon, d'accord. Il dit, oui, mais on va dire que c'est l'âne de mon arrière-grand-oncle. Alors, t'as intérêt à fermer ta gueule, quoi.
Ouais, c'est des conflits, hein. Mais il faut avouer qu'ils s'en sont sortis relativement facilement. J'ai été assez étonné par la capacité de ces deux Corses à redevenir amis.
Oui, j'ai rarement vu deux Corses aussi bien se réconcilier.
Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la Corse du Nord et la Corse du Sud cette année. Hein,
ah bah.
Réunis en une seule et même Corse contre l'envahisseur.
Tu parles un peu trop là pour Cécile, hein. Elle commence à froncer les sourcils.
Ah ouais, moi je suis pas la politique.
Et donc autour d'un banquet, on félicite les invités gaulois, pas pour avoir vaincu les Romains, non, mais pour avoir réconcilié deux clans.
Autour de cochons sauvages.
C'est ça. Et là ils font une belle promesse quand même, qu'il n'y aura plus jamais une seule querelle entre
Corses
sur le sol corse.
Jamais. Mais ils ont bien raison d'ailleurs, c'est relativement représentatif. Hein.
D'ailleurs depuis ce temps-là.
Mais tout va bien. Tout va bien, sans décoller.
Bah, en même temps ça a été écrit hier, hein, donc c'est normal.
C'est ça. Et nos amis gaulois retournent en Gaule et à nouveau se tapent un nouveau banquet, puisqu'il faut que tous les albums d'Astérix se terminent sur un banquet.
Okay. En même temps, Obélix apparemment n'a pas spécialement apprécié le sanglier corse. Hein,
le cochon sauvage.
Non mais du coup, on a enfin terminé cet Astérix en Corse. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les amis?
Bah, moi j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait comme d'hab.
Si, elle aime bien
les choses en général. Bah non, ça m'a fait beaucoup rire.
Comme elle a du mal à lire, elle a du mal à écrire.
Ça m'a fait...
On lui montre une couleur, elle est contente.
Ça m'a fait bien rire. Il y a encore des vannes dont je ne m'étais pas rendu compte là,
ouais.
Quand on en parlait.
Puis pas du tout capté qu'on parlait d'un pays.
Ah, ça parlait de la Corse.
Je savais pas que c'était la Corse, voilà, c'est ça.
Je me disais.
Je me disais bien aussi. Ouais. Pas mal. J'imagine que ta prof de français a dû être très très contente de toutes tes analyses sur
oui,
ce texte.
Oui, puisque Cécile est en CM2, on peut le dire.
Bonjour.
Et donc tu vas nous faire un joli exposé demain en classe.
C'est sérieux, Astérix.
Non, c'était vraiment pas très très agréable. Ils ont été un peu racistes, je trouve. On nous reproche énormément notre xénophobie, entre guillemets, hein, mais ce qui est faux, nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes juste pointilleux. Sur les personnes
qu'on veut sur notre île.
Hein.
Et on respecte un code couleur, voilà. On est blanc.
C'est facile.
Ouais, Gaspard.
Non, mais moi, je souligne à nouveau le fait que c'est un album que j'aime particulièrement, qui me fait beaucoup rire, notamment pour toutes ces vannes que j'ai encore découvertes en lisant la BD il y a 3 semaines, parce que ouais, je travaille les émissions en amont. Ouais. Et non, vraiment, j'aime beaucoup cet Astérix. Bon, il atteint pas le niveau de Cléopâtre, que ça soit en
BD. Je crois que je l'ai même pas lu en BD, tu vois.
Ah, mais la BD de Cléopâtre est monstrueuse. Alors moi, pour petite anecdote, c'est le moment où je le cale, chez moi, on lisait les Astérix en allemand, parce que mon papa est allemand. Et
c'est quoi son nom en allemand?
Le petit moustachu.
Astérix.
Ah, d'accord. Astérix.
D'où le petit moustachu, exactement, d'où le petit moustachu. Et alors vraiment, nous, c'est bon, il y avait d'autres vannes, hein, et je sais pas si on peut les traduire ici, si ça passe comme ça passe en Germanie. Mais du coup, en fait, en les relisant en français, il y a eu beaucoup de vannes que j'ai déjà
lues. En fait, il faudrait les lire en toutes les langues.
C'est vrai.
Comme ça, tu aurais 10 fois plus de vannes.
Ouais, bah, bien sûr.
Ouais, je pense que je vais faire ça.
Je pense, ouais.
Allez, mais en hollandais. Du coup, j'allais vous demander si vous avez des petites recommandations. Pierre.
Eh ben oui, moi j'ai plusieurs recommandations à conseiller à tous mes internautes. La première,
calme-toi non plus. Hein.
Bah non, mais
à mon avis, il y a 200 personnes qui ont lancé l'épisode. À qui?
Non, mais je recommanderais beaucoup la visite de cette magnifique île. Il a été souvent dit que pour découvrir la Corse, il fallait faire 3 voyages différents là-bas.
C'est vrai. Moi, mon conseil dans la vie, c'est partez en vacances, parce que bon, je comprends pas trop l'intérêt.
Je comprends pas pourquoi vous avez pas pensé avant, bande de connards.
Un petit séminaire pour découvrir la Corse. Donc ça commence.
Trop chiant.
Séminaire sur le dentifrice en Corse. Franchement. Non, on se marre.
La visite de la Corse passe par 3 étapes. La première étape étant le GR20, qui est une grande randonnée vraiment très très agréable. Que vous pouvez
ensuite,
faire
le championnat du monde.
Ensuite, nous avons le championnat du monde de la châtaigne.
C'est ça.
Qui est très sympathique. Et
évidemment.
Après, le lancer.
Et si vous ne gagnez pas le titre de champion du monde, ça sert à rien de passer à la 3e étape d'ailleurs.
Bah, bien sûr que non. Mais d'ailleurs, vous pouvez quand même aller courir dans le maquis. Il y a des courses dans le maquis. En fait, on aime beaucoup jouer à chat. Et cette année, nous avons lancé un jeu. Où est Charlie Géant? Qu'on a appelé Oui Yvan.
Et toi Cécile, est-ce que t'as une petite roco pour nous?
Bah du coup j'y ai pas trop pensé, mais du coup je conseille d'aller voir Astérix et Obélix sur Cléopâtre.
Oh putain.
Au cinéma.
Ah ouais. On est sur un perfectionnisme inexigeant dans cette émission.
Ouais, et surtout je conseille le fromage.
Ah le fromage, oui.
Ça c'est très très bon. Et toi Gaspard?
Et moi, ma recommandation, elle va être très simple. C'est juste d'adopter l'accent corse quand vous êtes en Corse, parce que ça vous permet d'obtenir beaucoup de choses, ne serait-ce que du wifi à l'aéroport. Voilà, je vous invite vraiment à utiliser cet accent qui n'est pas si compliqué à masterer.
Est-ce que tu pourrais nous faire une petite démonstration, Gaspard ?
On peut dire au revoir comme ça.
On peut continuer la fin de l'épisode sur l'accent corse. Je veux dire, bon, c'est pas magnifique. Là, je pars rapidement sur le Marseillais. Il faut faire attention.
Ouais, ça, c'est là. Il faut dire que les Corses se rendent compte assez facilement que les pins imaginent.
Il faut expliquer ce qu'est le pins.
Le pinsout. Alors, le pinsout qui vient du corse pinsuto, qui veut dire pointu, et qui en fait représente plusieurs choses. Premièrement, c'est l'accent des continentaux quand ils viennent sur le continent. Et deuxièmement, c'est aussi représentatif des chapeaux que les soldats français avaient lorsqu'ils ont envahi notre île, notre belle île, ouais, au XVIIIe siècle.
Notre belle île. Je peux voir ta carte d'identité juste pour voir quelle nationalité tu es.
Paris 14e.
Paris. Bouffon. Ouais. Non, mais du coup, je peux finir l'épisode sur cet accent. Et juste vous dire.
C'est quoi la semaine prochaine ?
Le prochain épisode, on va parler littérature. On va parler des contes de la folie ordinaire, du corse Bukowski.
Corse, bien connu, Bukowski.
Et la prochaine BD. Voilà, on a pas envie de s'embrouiller avec toutes les communautés. Du coup, on va faire une BD qui fédère. Et du coup, on va faire Tintin au Congo. Non, mais du coup, ouais, on va faire une BD plein d'amour, très inclusive. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce torchon. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous, toi, Pierre, d'avoir fait le trajet jusqu'au continent.
Avec plaisir. Mais d'ailleurs, je vais pas tarder à rentrer.
Merci. En revanche, si tu as fait le trajet jusqu'au continent, tu n'as pas toujours fait le trajet de la ville de Pro. et ça, c'est assez beau, en tout cas. Je tiens à te remercier d'avoir été là. On vient de perdre Cécile. Cécile qui vient de s'écrouler sur le canapé. Merci à toi, Cécile, d'avoir été là.
Oui. Je suis un peu malade. Merci à vous. Bonne soirée.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Ciao.
Ciao.
Avec César, t'auras pas l'Oscar. T'as l'air romantique, mais ta remette en toc. Arrête ton cirque, c'est pas toi qu'on croque. Pauvre légionnaire, tu rames, c'est la galère. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba. Il n'y a qu'un homme, un Gaulois. Pour crier go home aux Romains délicats qui tombent dans les pommes, faut voir ça. Superstar.